rock indé, punk et autres sur Radio Canu. S.A.V. Seul avec vous. S.A.V.
Salut, il est 17h et quelques, vous êtes toujours sur Radio Canu, 102.2 FM, c'est l'émission Rock Indé Punk SAV qui commence. On est ensemble pour une heure, voilà, on a commencé tout de suite avec un groupe canadien qui s'appelle Career Suicide. C'est extrait d'un EP qui était sorti en 2008, puis qui avait été réédité en 2010 par Dirtnap Records. Et le morceau qu'on a écouté s'appelait Things Take a Turn. Voilà, cette semaine on va faire une émission un peu particulière, parce que j'ai avec moi plusieurs invités du Grand Zéro, la salle de concert et puis plein d'autres choses. On va détailler tout ça ensemble, avec qui on va parler un peu de ce que c'est Grand Zéro, un peu de son histoire, et puis on arrivera à la situation actuelle qui est pas très réjouissante, parce que vous avez peut-être suivi ça, mais ils sont... leur local de Gerland, voilà, ils sont expulsés du local de Gerland qu'ils vont bientôt devoir rendre. Il ne peut plus y avoir de concert là-bas, voilà. Et donc on va parler de cette situation, de la relation tendue avec la mairie de Lyon en ce moment, et puis des possibles soutiens qu'on peut essayer de leur apporter. Mais avant de faire tout ça, on va d'abord parler un peu de ce que c'est que le Grand Zéro, comment ça a commencé. Bonjour à vous d'abord.
Bonjour.
Salut.
Je crois que vous préférez garder donc votre anonymat relatif. Avant ça, on va donc parler des gens de Grand Zéro, voilà. En général.
Le groupe uniforme.
C'est ça, ouais. Donc pour commencer, ouais, peut-être première question, si vous pouvez présenter un peu ce que c'est que le Grand Zéro, quand ça a commencé, je sais pas si parmi vous il y en a qui étaient déjà là dès les débuts Grand Zéro, ou c'est tous arrivé après. Déjà, présenter un peu ce que c'est que le Grand Zéro, comment vous êtes retrouvé là-dedans, comment ça fonctionne.
L'historien Florian.
Du coup, c'est vrai qu'en plus là autour de table, il y a aucun. C'est vrai qu'on se présente pas, mais si tu m'interpelles,
ouais, c'est ça, vrai, ça marche bien. Quoi. Ça va être dur.
Du coup, autour de la table, là, on est aucun être du Grand Zéro originel, entre guillemets, donc qui s'est formé en 2004, septembre 2004, où le premier squad qui a ouvert, donc c'était aussi dans le quartier de Gerland, c'était vraiment même pas loin des actuels locaux qu'on a aujourd'hui. Mm-hmm. Donc le Grand Zéro, c'est au départ un groupe de gens de Lyon, mais aussi pas uniquement de Lyon, qui sont mobilisés à un moment où il y avait vraiment plus aucun lieu pour la diffusion des musiques. Alors là, ça va être la ribambelle d'étiquettes qu'on a toujours du mal à trier, mais pour musique indépendante, alternative, expé, underground, etc. Il y a beaucoup de choses qui se réunissent derrière donc une espèce de scène un peu qui a des points communs sur la démarche, l'esprit un peu DIY, etc. Enfin, donc c'est tout plein de gens, dans plein de milieux différents, qui se sont réunis, qui ont dit, voilà, il n'y a pas de lieu à Lyon. À l'époque, le café musique était fermé et n'était toujours pas relogé par la ville. Et donc, il y avait aussi des anciens du café musique qui sont rajoutés au projet après. Et donc voilà, donc c'est des gens qui se sont dit, il n'y a pas de lieu à Lyon, il faut faire quelque chose, tirer une sonnette d'alarme, on va ouvrir un squat et on va l'ouvrir publiquement, on va dire à la ville, voilà, on va ouvrir ce lieu, vous ne l'utilisez pas, c'est un bâtiment vide, la ville doit faire des choses pour les musiques aussi qu'on défend et pour nos esthétismes, il n'y a pas de raison que ce soit que l'opéra et les grosses institutions qui aient des bâtiments, on l'ouvre, on va vous montrer qu'on sait faire des choses et essayons d'ouvrir un lieu pérenne à moyen terme à Lyon, quoi, avec la ville.
Je tiens à préciser que la démarche, elle s'est toujours inscrite, du coup, en tout cas au départ, elle s'est inscrite, et puis là, on est un peu dans cette continuité-là, dans ce truc d'interpellation des pouvoirs publics, en fait, et du coup, dans ce truc un peu, enfin, pas légaliste, puisque les gens ont ouvert un squat, mais du coup, avec vraiment cet aspect, on va interpeller et faire le pari qu'on pourra avoir du soutien pour ouvrir un lieu pérenne. Je pense pas qu'à l'époque, c'était le seul lieu. Moi, j'étais pas à Lyon à l'époque, et puis les uns les autres, on n'était pas forcément hyper au courant à l'époque. Du coup, enfin, il y avait aussi, je pense, une scène squat qui était active à l'époque, voire plus que maintenant, peut-être. Mm-hmm. Et du coup, là, c'était vraiment la démarche, de faire le pari qu'on arriverait à attraper un lieu plus pérenne en interpellant les pouvoirs publics. Ce qui se discute, mais en tout cas, c'était la démarche de base, quoi.
C'est-à-dire que l'idée dès le départ, c'était de faire quelque chose qui allait durer. Et le squat, donc, du coup, comment ça s'est passé ce que vous. Enfin, comment dès le départ, l'idée, c'est ce squat, c'était quoi? C'était une façon de forcer la main à la mairie, ou c'était
C'était une prise de position, en fait. Mm-hmm. Il y avait cet axe, donc bâtiment vide, chose inutilisée, et derrière, en fait, des gens qui voulaient se bouger avec un projet, et qui finalement, et ça c'est une ligne qui a pas tant bougé, en fait, aujourd'hui, des gens qui demandent ni plus ni moins qu'un espace à investir, mais entre guillemets, sans autre forme de, enfin, sans une forme poussée de partenariat, enfin, plus poussée de partenariat avec les autorités. À savoir avoir ce bâtiment, laisser notre zone, et à partir de là, développer nos choses. Ce qu'on a, enfin, ce qui a toujours, ce qui s'est toujours fait, en fait, produire nos modes de fonctionnement, et finalement s'en sortir très bien comme ça. Donc, dès la base, en fait, il y avait cette idée qu'il y avait une sorte de légitimité à exister en fait dans un espace comme Lyon, puisqu'il y avait toute cette histoire en fait de lieux qui fermaient, et donc les gens sont fédérés en fait. Enfin, c'est une fédération informelle. On dit souvent ça en fait, que Grande Zéro c'est un ensemble de gens en fait, et non pas un collectif penseur.
Et justement, c'était combien de personnes à peu près au début? C'est une aventure qui est partie à quelques-uns, ou d'emblée c'était un projet collectif important?
Alors, je pense là-dessus, peut-être, je sais pas si on a une hyper bonne connaissance du nombre de gens ou quoi, donc on va peut-être pas raconter de conneries là comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que
5-10 personnes, ouais, au départ quand même.
5-10 personnes, oui.
Voilà. Après, je pense que dans l'histoire de Grande Zéro, ça a toujours été une histoire difficile d'un point de vue collectif, dans le sens où le background des gens, à la base, il est pas que sur des sur un background politique, d'organisation collective, etc. Et c'est clair que c'est beaucoup de gens qui étaient un peu isolés les uns les autres et tout. Donc il y a toujours eu une histoire quand même assez difficile d'un point de vue collectif, en termes d'organisation ou en termes d'élaboration collective. Donc ça a souvent été porté quand même par des individus moteurs et tout, quand même, à travers l'histoire. Et là, aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, mais on est quand même dans des changements un peu radicaux là-dessus, justement, pour essayer de faire en sorte d'élargir vachement le processus décisionnel. Mais voilà, on pourra peut-être en causer plus tout à l'heure.
Ouais, d'accord. Et l'idée de départ, donc l'idée d'un lieu pérenne, c'était centré d'emblée uniquement sur la musique, ou il y avait déjà cette idée un peu de faire un lieu, je sais pas, parce qu'aujourd'hui, enfin, on va détailler ça un peu après, mais il y a les locaux de répétition, vous accueillez pas mal de labels, d'assos, etc. dans les locaux. Ça, c'était déjà un truc dès le départ, ou c'est quelque chose qui est arrivé petit à petit?
Du coup, dès le tout premier squat, en fait, il y a des groupes qui ont commencé à répéter sur place. En fait, il n'y a jamais eu, en fait, je crois, au départ, un plan très précis de on veut vraiment soutenir toutes ces disciplines-là. Il n'y avait pas une stratégie très élaborée à long terme, on va dire, sur il faut qu'on ait de l'art contemporain, des pièces de théâtre, etc. Mais immédiatement, le lieu a été occupé au maximum, et tout de suite, de toute façon, vu qu'il y a le manque de lieu de diffusion, il a toujours été lié aussi à un manque de lieu de répétition et de création. Vu qu'il y avait de la place dans le premier squat, dès le départ, il y a des groupes copains qui ont commencé à répéter sur place. À l'époque, je crois qu'il y avait Duracell qui répétait dans le premier squat, et ensuite, au fur et à mesure, en fait, il y a de plus en plus de gens qui sont, par le biais de la salle de concert, entrés en contact avec les uns avec les autres. Et donc, il y a plusieurs niveaux dans Grande Zéro, dans son histoire, avec ce groupe moteur, et de plus en plus de groupes autour qui s'associent et qui travaillent ensemble et qui deviennent potes, etc., ou qui étaient déjà potes à l'avance aussi, hein. C'est pas Grande Zéro qui a créé une famille. Mais et ensuite les autres disciplines, des bureaux d'associations comme on a aujourd'hui, et des locaux de création de plastique, etc. Ça s'est construit au fur et à mesure, ça s'est rajouté un à un quand on a eu la possibilité. Mais il y a toujours eu ce fantasme quand même, je crois, toujours dans l'esprit des gens, d'un lieu protéiforme, multidisciplinaire, ça a toujours été dans le discours de Grande Zéro et dans notre position, dans notre façon d'organiser des concerts, de casser les barrières entre les disciplines et les publics et les artistes. Donc ça passait aussi par casser, vous voyez ce que j'ai dit, les barrières entre les disciplines. Donc dès le départ, il y avait ce rêve-là un peu de, ouais, on va faire tout, un peu tout ce qui est possible, et on va s'amuser avec tout ce qu'on a à portée de main, quoi.
Et justement, là maintenant, vous pouvez peut-être détailler un peu tout ce qui se passe à Grande Zéro. Donc il n'y a plus de concerts, parce que vous n'avez plus l'autorisation de les faire au local actuel, mais je crois qu'il y a encore toujours les locaux de répétition, je parlais, label, assos. Vous pouvez détailler un peu toute la constellation qui tourne autour de Grande Zéro en ce moment?
Bon, principalement, c'est surtout locaux de répétition. Je pense qu'on en a environ une quinzaine en ce moment. Un petit peu moins.
De groupes,
moins,
ouais.
Enfin, des groupes. De locaux, il ouais. Enfin, y en a pas mal, quoi. Et du coup, il y a des locaux qui se partagent 5-6 groupes, parfois plus, parfois moins. Donc principalement, c'est quand même ça, quoi.
Il y a une soixantaine de projets musicaux en répétition à Grande Zéro, pour la musique, quoi. Mm-hmm. Et puis, à côté, je sais pas, enfin on a quelques locaux, du coup une dizaine qui sont plus attribués à des projets, alors soit individuels, soit collectifs. Il y a un collectif de ciné expérimental, il y a un atelier de couture, il y a la librairie Grand Guignol qui s'est relogé un peu chez nous quand il est parti de son local pour faire un peu de la vente par correspondance puis être présent au concert. Il y a un labo photo, il y a un local de Hachaka qui a un gros réseau de gens qui bricolent sur du circuit de bending et des trucs de noise un petit peu louche.
C'est un label aussi.
Ouais, c'est un label également.
L'atelier de sérigraphie.
Ouais, aussi, qui s'appelle Screeners et qui est tenu par une partie de, enfin, de punk locaux, quoi. Mm-hmm. Enfin voilà, c'est assez vaste et puis ça a pas mal tourné au cours des années, quoi. Mais en tout cas, il y a toujours ce truc-là, puis tous ces groupes effectivement qui s'entassent sur place, plus des résidences éventuellement sur proposition, des réunions, des moments collectifs comme ça. Nous, on est assez ouverts à pouvoir mettre à disposition les lieux tant qu'on les a pour des projets qui sont un peu soutenus et qui nous intéressent. Enfin, pour ça, j'en profite pour lancer le truc, mais il suffit de nous écrire et puis on étudie les demandes et si elles sont un peu soutenues, un peu construites et tout, enfin, il y a des chances que ça nous intéresse, quoi.
Même là encore en ce moment, vous pouvez encore faire quand même des événements publics, choses comme ça.
Pas vraiment d'événements publics, non. Pour l'instant, enfin, on prend pas ce risque-là, vu que notre proprio, le Grand Lyon, nous a demandé de nous tenir un peu éloignés de ça. On a quand même envie de garder les locaux au moins jusqu'à début 2013, même si on dirait qu'on pourrait peut-être les garder plus longtemps. En tout cas, le délai qu'on a maintenant, c'est début 2013. Et on préfère pas faire d'événements publics pour pas se gâcher cette possibilité d'avoir cet espace encore un petit moment, à voir comment ça se goupillera dans les temps à venir. Mais du coup, on est toujours ouvert par contre à ce qu'il y ait des résidences 2-3 jours où des gens puissent dormir sur place pour bosser sur X ou Y truc. Enfin voilà, c'est toujours ouvert, on a de l'espace, ça serait dommage de pas s'en servir, quoi.
Ouais. Parce que je sais pas si c'est... Enfin, si par exemple toi t'as déjà pu voir, mais en fait le bâtiment est très très grand.
Et c'est immense.
Y a beaucoup de possibilités parce que donc voilà, peut-être les gens connaissent beaucoup la salle du bas de Gerland, mais donc il y a toute cette aile de locaux de répétition, donc comme on disait avec beaucoup de pièces et tout ce premier étage où là il y a les donc ces locaux d'association et autres projets en fait dont on a parlé, même un deuxième dont on n'a pas la jouissance officielle.
Mais après il y avait des concerts au salon aussi, il y avait une deuxième petite salle.
Et du coup, enfin ouais, juste pour renchaîner vite fait avec l'histoire, juste pour dire, enfin en fait après le squat, il y a eu un petit délai de 1 an et demi, un truc comme ça, où il y a eu pas mal de négociations avec la mairie et où du coup cette démarche de squat d'interpellation des pouvoirs publics, elle a fonctionné d'une certaine manière. Puis on a eu la chance incroyable de tomber sur la Sacvel, donc qui est un bailleur de logements sociaux. À Lyon, enfin, qui a plein d'embrouilles en ce moment d'ailleurs, enfin, qui fait monter ses loyers, qui est endetté, etc. Mais bref, à l'époque, on a quand même trouvé un lieu par leur biais, ce lieu qui est incroyable, qui a été trouvé, en tout cas, c'était une chance incroyable, et en plus, ça n'a pas été des proprios très chiants pendant les 4 ans qu'ils ont été proprios, puisqu'on n'a jamais eu trop de frais sur le bâtiment, on en a eu l'usage gratuit, ils nous ont jamais emmerdé sur les concerts qu'on a commencé à en faire parce que la ville nous avait trouvé un deal avec le Rai Théâtre, mais qui était insuffisant. On pouvait pas faire assez de concerts. Puis le proprio du Rai Théâtre était quand même une bonne baltringue qui nous a quand même bien, qui nous a quand même bien piégé et bien arnaqué. Et du coup, on s'est mis à faire des concerts à Gerland. Au début, c'était en mode discret au salon. Puis ensuite, on s'est servi de la grande salle. Voilà, je voulais surtout revenir là-dessus pour les gens qui ont connu le salon et la grande salle. Donc après, on a osé faire des trucs dans la grande salle qui était avant utilisée par Chantier Public, une sorte de collectif d'art contemporain. Et voilà, en gros.
D'accord, ouais. Justement, ouais, donc on a parlé, voilà, il y a plein de choses qui se passent au Grand Zéro. La plupart des gens connaissent quand même surtout les concerts. Et puis il faut dire que ces dernières années, c'était un rythme quand même hyper soutenu. Il pouvait facilement y en avoir 3 ou 4 dans une même semaine. Chaque justement pour ces concerts, après vous avez amené quelques enregistrements live qu'on va écouter pour faire des pauses musicales dans l'émission, mais peut-être juste avant de s'écouter un premier extrait, si vous pouvez parler un peu justement de vos principes de fonctionnement pour les concerts. Alors sur votre site internet vous appelez ça vos principes à la con, mais que je trouve pas si con que ça du tout. Voilà, en termes de prix, de démarches, DIY, etc. Si vous pouvez juste faire le point un peu là-dessus.
Ben déjà, principalement, pas de vigile à l'entrée, Les prix, enfin, on n'a jamais dépassé 10 €. On essaie de faire les prix les plus bas possibles, tout en tenant compte des cachets des groupes et des frais que, qu'une soirée engendre.
Parce qu'en moyenne, c'est quand même plutôt 5-6 €, ce qui est assez rare quand même à Lyon.
À une époque, on était même sur pas plus de 7 en fait. Puis
voilà, après voilà, quand on a dépassé les 7, c'était vraiment des gros concerts avec, parce que effectivement on a ce truc un peu bâtard, on a souvent eu le cul entre plein de chaises, et il y a sûrement, enfin voilà, tout le monde qui est pas ok avec cette démarche, mais c'est vrai qu'on a toujours fait jouer et des groupes DIY qui demandent juste du défraiement, de quoi dormir, de quoi faire une bonne bouffe, de quoi passer un bon moment, et puis des groupes indés un peu plus gros quand même qui demandent des cachets, qui tournent avec des tourneurs, donc qui sont des gens avec qui c'est moins automatiquement de la camaraderie, on va dire. Mais du coup, on s'est toujours arrangé pour que ces groupes-là, même si ils passaient pour cher, par exemple à Paris, enfin je pense à des trucs genre Animal Collective, Silver Mondzion, toujours s'arranger pour les faire à 10 € ou moins, voire prix libre pour certains gros concerts. Mmh. Donc on trouvait que c'était des bonnes portes d'entrée vers un univers plus DIY, justement. Et puis ce mélange-là, ça a permis peut-être de faire tomber un peu des cloisons aussi. Même si du coup, ben, forcément, des fois c'était des gros groupes et qu'on leur sortait des cachets assez importants. Voilà.
Enfin, en fait.
Vas-y.
Oh, ok, pardon. Mais l'une des clés en fait de notre mode d'organisation, c'était de se dire que les entrées et le bar en fait étaient laissés à l'organisateur, ce qui est aujourd'hui, enfin, on s'en rend compte qu'on a perdu l'usage de cette salle du bas, ce qui est quasiment introuvable en fait ailleurs sur Lyon. Mmh. Et d'où en fait, d'où découlait en fait toute cette position sur l'économie du concert, que ce soit des tarifs des consos ou l'entrée. Il y a eu beaucoup de concerts à prix libre. En fait, il y a toute cette ambiance, ouais, du mode d'organisation. On a toujours tenu à grosso modo que les choses se passent avec plus ou moins avec des gens avec qui on avait une sensibilité, où il y avait quelque chose qui pouvait se passer. Comme tu disais, même si on a fait des gros groupes, il a toujours fallu qu'il y ait une sorte, un truc poreux en fait, où les choses pouvaient se mélanger et qu'on n'allait pas jamais se retrouver dans un mode de présentation de l'événement trop convenu, trop professionnel peut-être. En fait, voilà, il a toujours fallu qu'il y ait une sorte de camaraderie.
Ouais, tous nos points, enfin, parce que dans les principes, on renvoie sur le site, hein, vraiment, si les gens veulent savoir un peu plus en détail comment on fonctionne et pour quelles raisons. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'est résumé vraiment derrière l'idée de faire les choses un peu différemment de ce qu'on généralement peut avoir à consommer. Et justement, c'est ça le problème, d'avoir à consommer dans un espace de spectacle, de concert, où tu es encadré, pris en charge, où tu as ton billet qui passe par des... Par exemple, un truc qu'on veut jamais faire, c'est passer par des trucs type Digiclick ou Fnac, de vente en libre, où tu as des intermédiaires supplémentaires qui font surfacturer les trucs, où les consos sont excessives, où tu te fais, si tu as une bouteille d'eau, tu te fais embêter, si tu viens avec de la nourriture, tu te fais embêter, si tu as un bouchon sur ta bouteille, enfin, toi, ces espèces d'enchaînement d'encadrement de l'événement qui fait qu'au bout d'un moment, bah, tu viens à un concert pour une heure et puis t'en repars et t'as juste eu ce qu'on t'a proposé et t'as pas eu de moment de transition, on t'a pas proposé un peu plus de groupes que d'habitude ou des groupes qui s'opposaient parce que l'affiche elle a été pensée d'un point de vue marketing machin. Donc toujours cette idée, ouais, ben vous faites le concert mais la promo vous passez pas par les canaux habituels de pub, etc. Vous pouvez faire le tarif que vous voulez, mais il faut que ça soit raisonnable et qu'autant que possible ça soit assez transparent pour tout le monde, quoi, qu'il n'y ait pas des choses injustifiées, etc. Puis vu le rythme de programmation qu'on voulait avoir, c'était important aussi que les tarifs soient pas élevés, on pouvait pas non plus au bout d'un moment. Et donc voilà, toutes ces questions là qui faisaient que on voulait que l'événement il soit un peu différent et qu'il y ait une possibilité de circulation en fait, et que t'aies plus cette barrière entre le public et le spectateur, et la barrière ça passait par les vigiles, par une mise en scène de la salle, etc.
Entre le public et les artistes, entre guillemets,
voilà, entre utilisateurs et témoins du lieu. Et donc voilà, c'est un peu tout ça qu'on essaie de faire avec Compte Zéro.
Parce qu'après, il faut préciser, vous parliez de professionnalisation, que vous êtes tous bénévoles dans cette association.
Ouais. Toujours été le cas, en fait.
Ça a toujours été le cas.
Il y a eu un stagiaire, une fois, qui a été défrayé avec des ponts d'or. On lui a tout donné.
J'ai mangé des sandwichs à midi.
Le plus riche de toute l'association.
Voilà. Mais sinon, effectivement, on fonctionne sur ce truc de bénévolat. On a pensé à des emplois aidés à un moment, justement, parce que bah, ça a toujours été un truc quand même... lourd à porter, on va dire. C'est, ça a jamais été un truc qui reposait sur énormément de personnes comme moteur, quoi. Donc on a pensé à ce truc d'emploi aidé, et en même temps je pense qu'on a toujours été trop à l'arrache et trop habitué à un fonctionnement justement gratuit, enfin collectif en tout cas, de partager ça pour se projeter dans des emplois aidés. On n'a jamais réussi à sauter le pas, quoi. Mais peut-être tant mieux, parce que du coup on avait aussi peur du côté concierge que ça pourrait amener d'avoir une personne payée alors qu'il y a autant de boulot, quoi, justement.
D'accord. Ouais. Ce qu'on va faire, on va faire une première pause musicale. Alors avec un enregistrement live de Deer Hunter, je voulais peut-être le présenter très brièvement.
J'étais au concert, je veux bien.
Moi aussi.
Non, c'est l'un des. Enfin, moi personnellement, c'était l'un des premiers que j'ai fait. C'était un concert. C'était un des concerts au salon. Et je pense que c'était une époque où. Où le salon, on n'hésitait pas à l'investir de manière assez exceptionnelle, enfin dans le sens où il y avait vraiment vraiment beaucoup de gens à ce concert-là. C'était vraiment un très très bon moment. Enfin, c'était vraiment beaucoup de monde, une sacrée ambiance. Moi, je m'en souviendrai pas mal. Enfin, c'est une des raisons qui m'a fait revenir beaucoup à Grande Zéro, en fait.
Le truc, c'est que c'est un groupe assez indie à la base, maintenant qui tourne dans des gros festivals et qui prend assez cher. Bon, à l'époque, ils sont venus pour vraiment pas grand-chose, de ce que je me rappelle. Mm-hmm. Et en tout cas, enfin, ils ont fait un concert hyper direct, alors que si tu vas écouter les disques, il y a vachement plus de trucs ambiants.
C'est léché.
Et ce concert, c'était le chaos total. Les gens étaient surchauffés. Vous pouvez regarder. Enfin, il y a moyen de regarder la vidéo sur le site de Grande Zéro.
Il y a des gens en slip.
Il y a quelqu'un tout nu qui danse sur du verre. Enfin, il se passe vraiment des choses incroyables. Donc, c'est Hazel Street de Deer Hunter, du coup.
D'accord, allez, c'est parti.
Thank you.
Voilà, c'était donc Deer Hunter, un enregistrement live au Grand Zéro, parce qu'on est toujours avec les gens du Grand Zéro, et on va continuer un petit peu à faire l'histoire un peu du Grand Zéro avant d'arriver, on va quand même se garder pas mal de temps à la fin pour parler de maintenant, mais donc on parlait, ouais, au début, vous avez commencé comme un squat, et donc justement, il y a eu ce moment où le mode de fonctionnement a changé, où vous avez eu ce bail précaire avec le Grand Lyon. Vous expliquez un peu du coup comment ça s'est passé à ce moment-là, quels ont été les rapports avec la mairie. Ouais.
Avec la Sacvel, du coup, le bail précaire à la base, c'était avec ce bailleur de logements sociaux. Et il y a un an et demi, du coup, le Grand Lyon est devenu proprio, du coup, ce qui a un peu changé la donne et ce qui nous a amené à la situation d'aujourd'hui. Donc,
voilà. Et là, c'est le moment où vous êtes retrouvé, donc là, rue Prégaudry, à Gerland. Donc.
Ouais. Sacvel, c'était déjà le bail rue Prégaudry. Ça, c'était il y a 4 ans.
Quand on est arrivé, en fait, en gros, donc il y a eu cette période hors les murs. On a été relogé entre temps dans un autre lieu qu'on appelait Gondran entre nous, qui était juste un endroit où il y avait des locaux de répétition et quelques bureaux. Et quand ils ont trouvé le bâtiment, donc la ville qui nous a aidé aussi à être en contact avec la Sacvel, au tout départ, donc c'était bon, bah voilà, on a trouvé exactement ce qu'il vous faut, vous allez pouvoir faire des locaux, des bureaux. Et aussi des concerts sur place. Donc au départ, ça a été abordé immédiatement. Oui, ils disent qu'on pouvait faire des concerts à Gerland. Puis ils se sont rendus compte que le bâtiment, c'était difficile de le mettre aux normes et qu'il y avait un projet immobilier à plus ou moins court terme. On a toujours eu du mal à savoir vraiment quand ce projet immobilier allait se mettre en place. Donc ils ont dit non, pas de concert à cet endroit. On va vous trouver quelque chose. Là, on a justement le Rail Théâtre sous le coude, donc une salle à Vaise, une grosse salle. Ça faisait 500-600 places, enfin elle existe toujours, et qui a, je sais pas, 10-15 ans, un truc comme ça, donc c'est vraiment un vieux lieu important à Lyon, privé, et donc, mais un lieu qui a toujours eu du mal à être, qui a toujours voulu être soutenu par la ville, mais qui a toujours eu du mal à avoir un projet culturel un peu convenable pour eux. Du coup, ils se sont dit, bon, on va vous donner un accès à ce lieu, au Rail Théâtre, un nombre de dates, c'était 30 au départ à l'année, ça lui fait une subvention, et vous avez accès à ce lieu, donc vous pouvez faire toutes vos dates là-bas, c'est comme si vous avez, enfin genre, le lieu clé en main, on va acheter une sono pour le rail, vous allez arriver là-bas, tout est prêt, vous allez pouvoir faire plein de dates. Donc c'est comme ça que ça s'est passé, le relogement, donc il y a à peu près 4 ans, donc on... Et c'est là que c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à faire toutes nos dates au Rail Théâtre. La première année, on a fait à peu près, toute notre prog, toutes les dates qui étaient prévues là-bas. Et voilà, donc ça commençait, mais très rapidement. Bon, pour accélérer un peu l'histoire, au fur et à mesure, ce système de subvention avec le Rail Théâtre indirect, il est devenu très très difficile à tenir, parce qu'en gros, le Rail Théâtre recevait une subvention pour nous héberger un certain nombre de dates, mais il recevait la sub quoi qu'il arrive, et donc c'était pas un paiement à la date. Et lui, très rapidement, il se réservait les week-ends par exemple, des choses comme ça, ou nos dates, il les calait que s'il y avait absolument rien d'autre qui lui était tombé de l'autre côté. C'est qu'au fur et à mesure, notre panier de dates disponible, il s'est vraiment réduit. C'était chaque fois la bataille pour faire passer les choses. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à ouvrir de plus en plus Gerland, quoi, au public. Voilà.
D'accord.
Ouais. Un peu comme ça que ça s'est fait. Et pour dire, c'était vraiment une situation très bizarre où du coup on était un peu coincé entre le Rail Théâtre qui nous devait des dates, la ville qui avait pas de moyens visiblement de faire pression sur le Rail Théâtre pour qu'on les ait, nous notre programmation qu'on calait et qu'on ne pouvait passer nulle part. Donc il y a eu cette espèce de zone de flou pendant un petit moment qui s'est construite et qui a fait qu'on a pu faire des choses à Gerland quasiment sans aucun problème, sans accident, ni plainte, ni plainte de la ville, quoi. C'était assez incroyable.
Jusqu'à 2011.
Ouais, jusqu'à 2011. Voilà. Quoi. Mm-hmm. Du coup, c'était un peu l'état de grâce finalement pendant 4 ans, parce qu'on a pu organiser ces concerts incroyables à Gerland sans avoir été emmerdé, bon, alors que n'importe quel autre lieu se serait fait... Dans d'autres conditions, à d'autres moments de l'histoire, ça se serait fait têche. Et puis là, on a eu cette chance incroyable avec une sorte de soutien officieux, tacite de la ville, assez étrange en fait. Et du coup, ça fait qu'ils ont jamais levé le petit doigt pendant 4 ans en nous encourageant limite en sous-main à continuer là-bas.
Ils sont même venus là-bas.
Ouais, ils sont même venus là-bas. Donc aujourd'hui, c'est assez marrant de les voir justement avec le Grand Lyon, parce que c'est pas les mêmes institutions, mais c'est les mêmes personnes qui sont à la tête. C'est assez marrant de les voir nous dire accueillez plus de public, c'est trop dangereux. eux, quoi. Enfin, bon, après, effectivement, on a eu du bol sur toutes ces années à Gerland, qui se passe rien de trop grave. Nous, après, on avait pris nos précautions sur des trucs de sécurité, même si on n'était jamais aux normes normales. Mais bon,
on avait fait pas mal d'investissements, d'aménagements quand même. Enfin, on a fait.
Pour remettre un peu le cadre, en fait, début 2011, ce qui s'est passé, c'est que le Grand Lyon a récupéré la propriété donc de ce bâtiment qui appartenait à la Sacvel. À ce moment-là, on n'a pas trop su ce qui allait se passer. D'ailleurs, ça s'est fait énormément dans le flou. On a été très peu prévenus. On a juste reçu une pauvre lettre, en fait, nous signalant qu'on avait changé de propriétaire. Et puis, c'est tout. Et très peu de nouvelles du Grand Lyon, si ce n'est des histoires de poubelles et de parking, mais bon, qui ne valaient pas vraiment le détour. Jusqu'à août 2011, où... puisque finalement, il y a eu une visite, en fait, d'une entreprise privée de sécurité. Sur laquelle on a peut-être été un peu naïf et on n'a pas pensé, on n'avait pas pu prévoir que ça allait avoir de telles implications peut-être.
Ils nous ont dit il faut faire une visite pour les risques incendie, voilà, c'est obligatoire, on vient, et la visite s'est passée en mode ah ça va, il n'y a pas trop de problèmes.
Mais voilà, août 2011, on tombe sur ce courrier.
Cet avis d'expulsion.
Avis d'expulsion pour octobre. Avis d'expulsion pour
juillet, donc juillet pour
d'accord, c'était en juillet qu'on l'a reçu, pardon.
Mais peut-être avant, peut-être de s'attarder un peu là-dessus, j'aurais quand même resté un peu sur avant sur justement cette période qui a été un peu du coup là, vous en parlez, c'est la période dorée,
l'âge d'or
du Grand Zéro. Du coup, pendant toute cette période, comment ça s'est bien passé avec la mairie, mais comment vous êtes retrouvé vous du coup, ça vous a pas vous êtes pas retrouvé un peu je sais pas comment dire ça, le cul entre deux chaises, entre d'un côté le monde un peu DIY punk etc, et puis d'autre côté une démarche plus je sais pas comment dire ça, plus institutionnelle ou
Bah on a toujours été le cul entre plein de chaises en fait, et toujours tu vois dans ce truc de vouloir c'est con, hein, mais enfin, à la base, il y a quand même une démarche politique à Grand Zéro qui a pas toujours été criée au effort, et etc. Mais il y a quand même ce pari de dire, bon, bah, est-ce qu'on peut pas s'appuyer sur une certaine pression sur les pouvoirs publics? Alors, moi, je me fais pas trop d'illusions là-dessus, hein. Je sais qu'ils nous lâchent que ce qu'ils ont bien envie de nous lâcher, etc. Et je suis pas très, je suis pas du tout pro-PS ou n'importe quel politicien et tout. Simplement, en fait, On a eu la chance, ouais, d'avoir cet état de grâce dans tous les sens du terme, dans le sens où on était dans les locaux, où on faisait, bon, on a fait 80, 90 concerts par an, un truc comme ça, pendant 3-4 ans. Et en fait, on n'a jamais eu trop de comptes à rendre à la mairie. En fait, finalement, on faisait nos petits trucs dans notre coin. Ça arrangeait tout le monde, manifestement, et nous surtout, et puis le public surtout, parce que du coup, ça a permis tous ces concerts assez chouette, et puis ces moments de vie, etc. Donc finalement, on avait le cul entre deux chaises, mais nous, on pouvait faire notre vie dans notre coin, et c'était un peu la période tranquille où effectivement, à part faire de la programmation, de la gestion du lieu, on n'avait pas grand chose à faire d'autre pour pouvoir exister, quoi. Enfin,
tout en sachant que de notre côté, on n'a jamais défendu comme une ligne pure l'idée d'accueillir les gens dans un endroit insalubre, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous colle sous le nez, donc qui est en fait ce qu'ils appellent problème de sécurité à Gerland, nous, si tu veux, ce qu'on peut appeler une démarche légaliste, c'est qu'on a toujours voulu porter le discours avec la ville, avec notre proprio, que cet espace, on voulait le remettre aux normes. Mmh. Alors, on n'a pas forcément cherché à chiffrer ça ou à construire des projets,
on nous a dit
des projets de financement. Voilà, mais on s'est toujours confronté à un non, en fait, clair, de nos interlocuteurs en public. Alors que nous, ce qu'on voulait, c'était.
Avec tout ce truc des friches, du coup, de dire, nous, on dit, on aimerait bien mettre aux normes pour pouvoir se pérenniser, etc. Puis nous, on nous dit, bah, dans un an ou deux, on va commencer des travaux, vous comprenez. Et en fait, ils savent pas, en vrai. Et le projet aujourd'hui, il est presque toujours aussi flou, même s'il a avancé, quoi.
Chaque année, il leur disait, la convention se re-signait, donc la convention précaire, on était en bail précaire à Gerland, en disant, bon, bah, l'année prochaine, ça va être sûrement détruit ou pas. Il n'y a jamais eu, en fait, un échéancier vraiment clair, en disant, bon, bah, voilà, on a 4 ans, vous pouvez peut-être faire des choses dedans, mais là, promis, 2016, c'est fini, quoi. On n'a jamais eu de date, quoi. Et c'est juste, ça s'est accéléré très vite avec la dédite, où tout d'un coup, c'était, mais en fait, si, on le fait maintenant, en fait, le projet. Et ça va être cassé dans 6 mois. Mm-hmm. Puis en fait, non, dans un an. Puis en fait, on se rend compte à chaque fois qu'on insiste un peu, qu'on se renseigne sur qu'est-ce qu'il y a comme projet d'aménagement vraiment sur le quartier. Ben, en fait, ah non, ça dépend d'une route, d'une autoroute. Je sais pas quel financement, ce qui fait qu'on a vraiment du mal à savoir ce qui se passe sur la zone, quoi.
D'accord, ouais. Ouais, là je vois que l'heure tourne. On va peut-être faire une dernière pause musicale et puis quand même pour justement redétailler tout ça, avoir au moins 20 minutes à la fin. Donc on va s'écouter un morceau de Grass Widow. Je vous laisse encore.
Du coup, c'est
je te laisse
groupe,
le présenter.
Moi qui avais joué au mois de mai dernier à Grande Zéro, et c'est une reprise d'un groupe qui s'appelle les Nerves. Donc c'est une compile de reprises que je trouve très bien. Et le morceau s'appelle Walking Out of Love.
D'accord, c'est la piste 5. Hein.
C'est ça.
Ok. Et ben on s'écoute donc Grass Widow. Voilà, c'était donc grande, c'était Grass Widow, pardon. Voilà, on va, il nous reste allez quoi, une vingtaine de minutes. Je suis toujours donc avec des gens du Grand Zéro et on va parler maintenant de la situation actuelle. On a commencé déjà un peu à l'aborder avec donc cette visite au départ de sécurité pour l'histoire d'incendie. Sécurité incendie et puis ce qui s'est suivi ensuite, l'avis d'expulsion que vous avez reçu pendant l'été avec je crois à ce moment-là il y a eu une espèce de plus ou moins de micmac entre le Grand Lyon et la mairie de Lyon avec un côté c'est le Grand Lyon donc je crois qu'il vous a écrit, la mairie de Lyon n'était pas forcément au courant, non, c'est ça.
C'est un truc de cet ordre là qui s'est passé, c'est à dire que nous alors pour revenir là dessus très très vite, on a toujours été soutenu officieusement comme on disait tout à l'heure par la mairie de Lyon, c'est à dire que pendant des en gros, il y avait une personne de chez nous qui était en rapport avec une personne de la mairie de Lyon, qui est une sorte de conseiller de colon qui s'appelle Samuel Bosque, qui est conseiller aux musiques actuelles. Et on va dire que lui, quand on le rencontrait, c'était limite s'il nous disait pas en sous-main, bon bah, continuez les concerts, tant que vous êtes discret et tant que ça se passe bien, ça se passe bien. Puis quand ça se passera mal, ça se passe mal. Et puis bah voilà quoi. Du coup, le Grand Lyon nous a envoyé une dédite pour qu'on parte fin octobre. À ce moment-là, nous, bon, c'était les vacances, donc il y avait un petit temps de battement. On a eu un rendez-vous avec la mairie assez rapidement. Et je pense que la mairie, voilà, on a une certaine légitimité vis-à-vis d'eux qu'on n'a pas, pas forcé. Je veux dire, Grand Zéro a toujours fait ce qu'il avait envie, surtout. Mais du coup, on n'a pas forcé ça. Mais à force de faire jouer des groupes indés un peu reconnus, des trucs comme ça, forcément, il y a une sorte de légitimité. Du coup, la mairie, ils sont direct venus à un rendez-vous avec le Grand Lyon, avec nous. Et ils ont reculé la date jusqu'à début 2013, à la condition qu'on n'accueille plus de public. Donc voilà, on n'accueille plus de public. Donc on a obtenu l'usage des lieux jusqu'à début 2013. Mais voilà, on n'a plus cet outil de diffusion de concerts qui était quand même extrêmement important. Et donc voilà, mais on voit que la mairie a aussi couru après le Grand Lyon directement pour leur dire bon, laissez-les encore un petit moment, sinon ça va vraiment être une épine dans notre pied.
Et on a perdu le Rai Théâtre aussi avant.
Et on a perdu le Rai Théâtre. Ouais,
c'était au printemps avant, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
C'était au printemps alors qu'on avait des gros trucs prévus là-bas. Le gérant du Rai nous a lâché parce que la mairie menaçait enfin, elle menaçait pas vraiment, mais elle proposait un paiement à la date des dates de Grand Zéro. Et lui, du coup, bon, on va pas épiloguer là-dessus, mais c'est une sorte de, d'anarchiste de droite un peu escroc, quoi, enfin, qui en gros s'est mis pas mal de thunes dans la poche grâce à Grande Zéro, grâce à la subvention que lui filait la mairie. Donc bon, enfin, on n'est pas des justiciers là-dessus, mais bon, on l'a un peu mauvaise parce qu'il nous a annulé en plus juste avant un festival un peu important, African Tep, là. Donc c'était vraiment dommage, quoi.
C'était à peine deux semaines avant, enfin bon, bref, c'était.
Et du coup, maintenant, vous êtes un peu, vous faites, enfin, vous n'avez plus de concert donc à Gerland, et vous êtes un peu, je sais pas comment dire ça, obligé d'aller organiser des concerts à droite à gauche, de faire les événements Grande Zéro hors les murs. Comment ça se passe du coup? Vous arrivez quand même encore à faire quelques dates, mais.
En fait, le projet principal de cette année, avant même en fait qu'on tombe sur cette délite, c'était, enfin voilà, on dit un truc un peu qui relève de l'interne, c'était de se restructurer et de repenser en fait le fonctionnement collectif. Donc de toute façon, la ligne pour ce début d'année, ça aurait été une programmation moins dense que ce qu'on avait connu par le passé, pour pouvoir repenser en fait le projet de l'intérieur et recommencer en. Voilà, repartir dans des sens d'autogestion, tous ces trucs.
Un nouvel épisode.
Et voilà. Préparer le relogement, puisqu'on savait bien que ça allait.
Et préparer le relogement. Du coup, ce qui se passe pour le moment, c'est une sorte de programmation qu'on appelle hors les murs. Mais voilà, comme sûrement t'as pu le voir, c'est vraiment sans, ça porte pas la comparaison avec ce qu'on a fait pendant les années précédentes. Donc par-ci par-là, on arrive à faire des choses de manière clairsemée. Mais c'est encore une fois, c'est absolument pas du tout la même ambition de celle qu'on veut porter. On se greffe sur des lieux qu'on essaie de trouver les moins mal adaptés à ce que nous on aimerait que soit un concert.
Le Sonic, des choses comme ça,
pas tant que ça finalement. Quand on regarde, on finit plus par se retrouver finalement dans des bars qu'au Sonic.
Bah, pêle-mêle, hein, pour les lieux actuels où il se passe des choses, il y a le Tostaki qui est cette sorte de bar tenu par un type assez improbable, mais qui finalement est curieusement un espace de liberté conséquent. Parce
à deux
que,
pas de la radio d'ailleurs.
À deux pas de la radio, ouais, c'est clair. C'est à côté du Quai Saint-Vincent, rue de la Vieille, là. Sinon, il y a Buffet Froid, qui est cette librairie qui a remplacé Grand Guignol sur la montée de la Grande Côte, où il se passe des trucs au sous-sol, des fois avec des petites jauges. Il y a la Triperie, qui peut accueillir 100 personnes maximum pour des concerts un peu moins bruyants, on va dire.
Sur le pont de la Croix-Rousse, aussi.
Voilà, c'est ça. Le Sonic, les gens du collectif actuel Grande Zéro, il y en a eu qui organisaient des trucs au Sonic, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas forcément un lieu qui convient pour tous les concerts qu'on a envie de faire, et puis... c'est un lieu qu'on a envie de soutenir, mais qui à côté de ça et enfin qui des fois me semble un peu triste à moi par exemple sur pas mal de points, quoi, enfin donc
mais c'est clair que par contre c'est un lieu qui est encore utilisé par beaucoup d'organisateurs qui nous soutiennent aussi en genre d'être là-bas. En vrai, on en a fait quand même nombre de dates un peu là-bas, et le Périscope aussi.
C'est ça qui est toujours un peu compliqué de dire avec une programmation Grande Zéro hors les murs, c'est que la programmation de Grande Zéro a jamais émané en fait d'un collectif programmateur. C'est toujours été une fédération informelle de gens qui avait envie d'investir un lieu. Donc nous on se considère pas comme la force de proposition. La force de proposition de Grande Zéro au niveau de la programmation, ça a toujours été toute une série d'acteurs, enfin, que tu connais, que je pense plein de gens connaissent sur Lyon, et qui ont proposé des tas de choses différentes et des tas de genres musicaux différents. Et effectivement, ces gens-là après se retrouvent certains sous le qualificatif Grande Zéro hors les murs, d'autres se retrouvent de manière plus régulière au Sonic.
Donc puis d'autres, le Périscope
puis,
aussi.
Puis d'autres font plus de concerts. Hein.
Voilà. D'accord, ouais. Et justement, donc maintenant vous êtes en phase de négociation pour essayer de trouver un nouveau lieu où vous vous installez de façon durable. Vous nous racontez du coup un peu comment ça se passe, où vous en êtes pour l'instant dans la recherche d'un nouveau lieu.
C'est pas évident en fait de trouver un nouvel endroit. On est un peu. En fait, on fait des commissions, donc plusieurs personnes on se réunit. Donc il y a une commission recherche de lieu, commission propagande, c'est ce qu'on appelle propagande, mais c'est pour l'affichage et tout ça. Mais pour la recherche de lieu, pour l'instant, il n'y a pas non plus énormément de pistes.
Je sais pas, le truc, c'est que... C'est qu'en fait, on est toujours dans cette démarche un peu semi-sosdem, du coup, de pas non plus y croire à mort, mais de faire le pari qu'en interpellant la mairie, notamment, pour l'instant la mairie, en tout cas c'est notre principal interlocuteur, faire le pari qu'en les interpellant, puis en leur foutant suffisamment la pression, on arrivera à obtenir un lieu, parce qu'on sait que le foncier, ils l'ont en fait, ils l'ont sous la main, c'est juste qu'ils ont du mal à le sortir, les gens qui ont le foncier, ils sont apeurés parce que les squatteurs, nanana, etc. Après, nous, on fait le pari, du coup, et c'est aussi ce pari politique-là, d'un lieu justement non marchand, dans la ville de Lyon, dans des espaces vides et tout, et du coup notre ambition, peut-être que pour l'instant elle se limite à obtenir un lieu pour minimum 5 ans on va dire, pour pouvoir continuer à faire et la création et la diffusion, mais bon là on n'y est pas encore du tout. Pour l'instant la mairie elle réfléchit à des solutions, là on a eu des échos comme quoi ils réfléchissaient à nous permettre de rester un peu plus longtemps dans les lieux à Gerland, de à la fois ben, chercher d'autres lieux, de peut-être rouvrir le Rail Théâtre en insonorisant un peu mieux pour nous permettre de refaire des concerts là-bas. Mais nous, on insiste très très fort sur cette ambition-là, qui est peut-être un peu too much pour la mairie, d'un lieu de création et de diffusion qui nous permettent d'avoir ce truc-là. Alors on pourrait nous dire qu'on n'est pas légitime, tout ça. Nous, on fait juste le pari qu'on est assez nombreux et qu'on a assez de soutien pour pouvoir faire plier la mairie là-dessus, en fait. Mmh. C'est une stratégie très intéressée. On ne croit pas plus au PS que ça, mais ça...
Et pourquoi justement... forcément passer par un soutien de la mairie, est-ce que, enfin je sais pas, là, je vais peut-être poser une question très naïve, mais louer ou même je sais pas, trouver un espace sans forcément être, enfin sans forcément que ce soit la mairie qui vous le propose, etc. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ou pas
Financièrement, c'est louer un lieu tous les mois, c'est chaud quand même.
Bah, et puis, en fait, sur cette question de Joris, quand il... Pardon, désolé. Ah, c'est moi qui utilisais le nom. Désolé. Donc, dans cette question d'obtenir, en fait, un lieu, c'est... En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que la mairie nous place dans une position où il nous demande de proposer, en fait. C'est-à-dire que quand on dit obtenir un lieu de la mairie, pour l'instant, c'est nous les gens qui cherchons. À ce qu'ils nous disent, bon, après, c'est cette sorte de langue de bois, on y travaille... On ne sait pas trop où ils en sont. Le fait est que on nous demande aussi, sous le manteau, si nous, on a trouvé des choses. Donc finalement, tu vois, ça peut être chercher à construire un partenariat dessus avec eux, mais quelque part, c'est... Alors on ne sait pas jusqu'à quel degré on va devoir en fait les forcer là-dedans. Mmh, si on va devoir prendre position, prendre place dans cet espace, ou si on va.
Tout à fait ça la question, je crois.
Mais vous avez pas peur, par exemple, je sais pas, d'y perdre de votre indépendance? Du coup, le rapport de force, j'ai l'impression, il est pas du tout en votre faveur à l'heure actuelle, et qu'au final, la mairie se serve un peu de vous. Soit justement, elle y trouve aucun intérêt et puis elle vous laisse tomber. Soit autrement, si elle y trouve un intérêt, ça soit pour vous intégrer un peu à sa campagne, un peu de valorisation culturelle. Enfin, des choses qui est un peu à la mode en ce moment du côté de la mairie.
Bah, si on insiste en fait à négocier avec la ville et à obtenir ce lieu par la ville, c'est parce qu'en fait on part du principe qu'on l'a déjà obtenu par la négociation. En fait, dans les faits, la ville a déjà accepté qu'on ait un lieu unique de diffusion et de création, même si c'était pas complètement ouvertement assumé. Mais bon, en gros, on voit pas pourquoi on devrait tout d'un coup revoir à la baisse nos exigences ou notre façon de voir le projet, puisqu'on a, moi c'est naïvement, on se dit bah oui, mais en fait on l'a même déjà en ce moment, en fait on l'a, le lieu. Et donc du coup, à partir de là, si on insiste tant à négocier avec la ville aussi, c'est parce qu'il y a toujours eu cette idée que ouais, nous on avait le moyen pour les activités précaires et indépendantes et les esthétiques qu'on défend, mais pas uniquement, elles sont pas toutes précaires, enfin les choses qu'on défend, les choses qu'on aime, ce qui a besoin avant tout, avant une subvention, avant c'est juste du foncier, en fait. Et qui sont les personnes qui tiennent le foncier principalement, qui pourraient nous aider à ce niveau-là, en ayant conscience de notre projet culturel, etc., parce que à s'adresser à des bailleurs privés, oui, je veux juste nous dire, allonger l'argent, quoi. Mm-hmm. On se dit, bah, qui a du foncier et qui peut être sensible à ce qu'on fait? Bah, c'est le pouvoir public. Et pourquoi il lâcherait pas un lieu? Mm. Où nous aiderait? On est prêt à faire des compromis aussi. Hein. On est prêt à ne pas avoir un bail précaire, uniquement précaire, où on paierait pas le loyer. On envisageait des choses. Mais ça nous semble indispensable que la ville fasse des choses pour ce genre de culture, plus que juste donner des subventions et soutenir des orgas de concert.
Moi, j'ai un point de vue là-dessus qui est en fait que, si tu veux, la location, déjà on en a pas mal parlé, c'est pas un truc qu'on rejette totalement comme idée, simplement en fait ça nous met dans une position où on doit gérer un truc qu'on n'est pas sûr de savoir et de pouvoir gérer en fait pour le moment. Alors on pourrait dire que c'est plus autonome, en même temps moi je vois pas où est l'autonomie dans la location, tout comme je vois pas où est l'autonomie dans demander à la mairie. Mais après j'ai peu de croyance dans une autonomie parfaite dans ce monde-là dans lequel on vit, en fait. Et du coup, moi, pour venir du milieu squat, etc., je crois que je suis à un moment de ma vie où j'en ai un peu marre de la précarité. Et je pense que le lieu Grande Zéro, c'est aussi ça. C'est se dire qu'en fait, on peut sortir de cette précarité, s'appuyer sur la petite légitimité qu'on peut avoir auprès de la mairie pour pouvoir faire des trucs qu'on a envie de faire. Et effectivement, si le niveau de compromis devient trop avec la mairie, si la mise aux normes elle est trop reich, si leurs exigences elles sont trop hautes, nous, il y a un moment où on arrêtera, en fait. Il y a un moment où on sera pas capable de le faire. Et je pense qu'on est aucun là d'entre nous à être prêt à vendre nos exigences pour avoir un lieu, en fait. Enfin, c'est vraiment ça. Du coup, là, c'est dans l'idée qu'on arrive à trouver des conditions, même si nous, on peut faire des efforts de mise aux normes nous-mêmes, sur certaines choses. Enfin, je sais pas encore lesquelles, parce que c'est très flou, mais en tout cas, on fera pas de compromis au point de perdre notre énergie, qui est vachement DIY quand même, même si on fait beaucoup de compromis avec la mairie. L'énergie sur laquelle fonctionnait le lieu, c'était quand même toujours ce truc do it yourself, quoi. Et ça, on veut pas le perdre, quoi. Sinon, ça n'a plus d'intérêt pour moi, puis je pense pour les autres, c'est pareil, quoi.
Et puis, on sait jamais, on sait pas si dans les mois à venir, il faudra avoir une démarche un peu plus offensive, on verra aussi, quoi. Mais en fonction de ce qui se passe, voilà, on est prêt également à lutter un peu plus, quoi.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a malheureusement des exemples qui rendent pas très optimistes. Enfin, je pense à ce qui s'est passé avec la friche un peu avant vous, avec d'ailleurs un scénario un peu similaire, parce que c'est encore la question de sécurité incendie qui a été utilisée à l'époque. Ouais. Il y a l'épisode du 2 d'Escadène qui sont toujours pas réussi à retrouver un endroit où se placer. Vous, du coup, vous êtes là à l'heure actuelle plutôt optimiste, ou enfin, comment vous sentez que ça se passe? Vous avez l'impression que vous allez pouvoir trouver une solution, ou...
On est en voie. On est en voie dans le sens où là, on a lancé, d'ailleurs ça permet d'embrayer là-dessus, on a lancé un appel à l'aide de soutien, donc qui est dispo sur le site, qu'on a envoyé via la newsletter. On a des petits flyers aussi, on en laisse quelques-uns à Radio Canu, si ça intéresse des gens. Puis il y a moyen de trouver sur le site. Et l'idée, en fait, c'est que il y a du monde, des particuliers, des assos, des structures, des collectifs qui puissent écrire à la mairie, à Colomb et à Képénékian, qui est l'adjoint à la culture, pour leur dire qu'ils ont besoin de Grande Zéro dans leur quotidien, etc.
Alors, peut-être si tu peux détailler un peu pratiquement pour les gens qui nous écoutent, comment ils peuvent faire.
Très pratiquement, on peut envoyer une lettre, c'est encore le mieux, je pense, parce que les écrits, ça a un peu plus de densité à mes yeux, ou un mail. Du coup, il y a les infos, des adresses sur notre site, etc. Mais du coup,
peut-être précise justement ce que je crois qu'on n'a pas précisé encore, l'adresse du site.
Alors,
web,
c'est grandezero.org, grandezero, G3R NDZERO.org. Et du coup, là-dessus, il y a pas mal d'infos, puis il y a notre agenda, vous pouvez vous inscrire à la newsletter aussi. Et du coup, l'idée, c'est vraiment qu'on fasse monter un peu cette pression sur la mairie. Je pense qu'ils y sont vraiment pas insensibles, en fait. Et du coup, on se projette pas dans une victoire par rapport à ça, mais on continue à y bosser. Et je pense qu'il y a un moment, peut-être qu'on s'arrêtera d'y croire, mais c'est pas encore arrivé ce moment, en fait. Et peut-être qu'on trouvera d'autres solutions, quitte à revenir au squat, quitte à revenir à d'autres choses. Mais c'est vrai que là, on est vraiment dans cette démarche de vouloir pérenniser, quitte à faire des compromis sans vendre complètement notre démarche de base, quoi. Enfin...
Et puis le collectif, moi, à mon sens, il est pas moribond en ce moment, parce j'ai l'impression qu'on arrive à créer quelque chose de plus large au niveau du bâtiment, en réinjectant quelque chose, en fait, avec les différents niveaux d'utilisateurs du lieu. Et du coup, il y a quelque chose qui est en construction d'assez nouveau. Et puis toutes ces choses qu'on est en train de créer, au niveau du soutien, plus les sollicitations quand même qui commencent à venir, aujourd'hui tu nous as invités, j'irais pas dire ça, mais en ce moment, moi, je suis assez, je trouve qu'il y a une émulation, quoi, c'est pas mort.
Par exemple, c'est vrai qu'on a cette démarche d'aller parler aux médias en ce moment, c'est un truc, moi, où je suis ultra méfiant, et en même temps, c'est un des moyens de pression sur la mairie. Alors, on peut penser qu'on est des pimpins, Mickey naïfs et tout, N'empêche qu'on continue à défendre ce truc sans vigile, avec des boissons pas chères, etc. Enfin, même dans des gros médias à la con, comme Libé, on a eu le Move ce matin, c'est con, quoi, la radio jeune de Radio France et tout. C'est pas des trucs qu'on kiffe à mort, mais en tout cas, c'est un bon moyen pour eux les faire les titiller un petit peu, quoi. Et enfin, ce que je tenais à dire, par exemple, par rapport à Deux d'Escadène ou par rapport à d'autres choses, nous, on a cette ambition, sans vouloir être prétentieux, mais d'arriver à fédérer. Et pour moi, le collectif Grande Zéro, c'est une excellente excuse en fait pour fédérer beaucoup de gens avec qui on se sent une complicité. Et de d'Escadène, évidemment, qu'on se sent une complicité avec la manière dont ils approchent le cinéma. Et puis, bah, on était hyper souvent là-bas quand ils étaient à la Croix-Rousse là, il y a deux étés.
Puis on les connaît.
Et on les connaît aussi. Mais je pense que, enfin, moi, j'ai vraiment envie que s'il y a un nouveau lieu ou s'il y a une nouvelle époque, que ça puisse encore plus mélanger des gens, que ça puisse aussi déborder le cadre un peu arty habituel, parce que ben, Deux d'Escadène y posait aussi des questions sur, sur l'urbanisme, sur la manière dont on aménage la ville. Nous, on aime bien aussi aller dans les squats et tout, enfin, on est quelques-uns à venir de là et tout. Et du coup, dans l'idée, le collectif, moi j'aimerais bien qu'il ressemble à un truc encore plus large, qui puisse accueillir d'autres choses que des trucs arty, etc. Parce que c'est vrai que c'est parti de là avec Grande Zéro, mais que ça puisse permettre à pas mal de gens de se fédérer autour de ce projet qui a la chance d'avoir un peu de reconnaissance de la mairie, et que du coup peut-être on arrivera à obtenir un lieu. Et nous, vraiment, l'idée, c'est de mutualiser un lieu, en fait. Alors, c'est pas ouvert aux quatre vents, bien sûr qu'on a nos exigences et nos affinités, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un truc fédérateur et qui nous permette de nous regrouper avec des gens qui peuvent être très différents les uns des autres, mais que ça soit un espace qui serve à beaucoup de choses, y compris à des trucs politiques en lien avec nos envies, etc. Enfin, voilà.
D'accord, ok. Je vois que l'heure, ça y est, on arrive à ces 6 heures. Donc juste pour résumer, donc comme soutien possible, il y a ce système de lettres à l'heure actuelle. Enfin, à moins qu'il y ait d'autres choses à rajouter là-dessus.
Ouais, il y a aussi tu voulais parler de l'affichage ou
on
du
va
concert
aussi, ouais, proposer des sessions propagande en fait, enfin régulièrement là on s'est un peu calmé, mais voilà, faire de l'affichage pas mal et tout. Et puis les prochains concerts, simplement, donc vendredi 10 là dans une maison, il suffit de nous écrire pour connaître l'adresse. Vendredi 10, il y a un chouette concert un peu transdisciplinaire avec pas mal de trucs différents, de la folk, de la pop,
des performances, des installations, des projections,
voilà, c'est ça. Et le 18, la semaine prochaine, il y a un concert punk Autostaki, justement, avec Fag Cop, un super bon groupe ricain. Donc ça, c'est un peu les prochains rendez-vous, et l'idée, c'est vraiment qu'on se rencontre, qu'on se cause, qu'on vienne se parler les uns les autres, et puis qu'on puisse avancer là-dessus, quoi.
Voilà. Il y a un gros rendez-vous aussi le 17 mars, du coup. Là, peut-être qu'on mange un peu trop sur le temps. Là.
Ouais, non, mais c'est bon. Bien de me dire que j'avais
un gros rendez-vous.
Encore quelques minutes.
Voilà, juste un gros rendez-vous. Non, le 17 mars, du coup, à Vaud Jazz en soutien, donc un festival de jazz à Vau-en-Velin, nous ont accueillis pour la programmation d'une de leurs soirées. Du coup, on en a profité pour faire venir des groupes dont on est un peu très fan et qu'on n'avait pas les moyens de faire venir d'habitude. Donc, le 17 mars, on fait jouer Konono Number One, donc des Congolais, et Keiji Aino, un Japonais un peu mythique dans la musique expé également, et un groupe local Direction Survie.
C'est au centre Charlie Chaplin à Vau-en-Velin. Le tarif réduit, ça sera à 9 euros.
8
si je me plante pas. Donc voilà. Et si après, enfin, il y a des gens qui galèrent trop pour payer, n'hésitez pas à nous écrire et on pourra toujours s'arranger pour que vous puissiez venir.
Les réservations via le site de Grande Zéro seront préférentielles.
Voilà. D'accord. Du coup, ça va me permettre d'embrayer sur l'agenda concert, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. On aura peut-être le temps vite fait de passer le morceau, mais je crois qu'il est assez long, mais on passera juste un petit extrait.
De Konono, ouais.
Quelques concerts cette semaine. Donc, si je retrouve le papier où j'ai noté ça, voilà, c'est ici. Je vais essayer de les faire dans l'ordre. C'est surtout ce week-end. Jeudi, un concert. Donc, on sera le 9 au Sonic avec Kim Novak et God Only Knows. Ce sera à partir de 20h30 à 8 euros. C'est plutôt une soirée pop. Vendredi 10, alors il y a plein de choses. Il y a le Grande Zéro à la Mule dont tu viens juste de parler, là, donc, avec Oker, Ramona Cardova, etc. J'ai pas fait gaffe, tu avais donné l'adresse et
Il faut aller sur le site, en fait, c'est dans une maison en centre-ville, l'adresse est sur le site.
D'accord. Et c'est quoi, c'est 19h, 23h?
L'ouverture des portes à 19h30, ouais, fin à 23h, ouais.
Et à 5 euros.
C'est 5 euros. Ouais.
5 euros, ok.
Ou moins si t'as moins.
Moins si t'as moins. Toujours, ça aussi fait partie des critères importants pour nous.
Et vendredi soir, il y a le choix. Il y a aussi un concert au Klaxon où il y a Michel Clou en solo des groupes Diabologum et Expérience qui jouera avec Broadway. Ça, c'est donc au Klaxon. C'est à 20h30 et c'est à 12 euros si vous payez plein de tarifs. Il y a des tarifs réduits. Vendredi, toujours le 10, il y a les Nuits de l'Alligator à l'épicerie moderne avec Tout Galante, Mama Rossine et Lewis Floyd Henry. C'est à 20h30 et c'est un peu plus cher, c'est à 15 euros. Et pour terminer cet agenda, deux choses aussi dimanche soir, donc on sera le 12, il y a quelque chose au Sonic avec John Duncan et Pierre G. Des Enfants, un concert plutôt noise, ce sera à partir de 21h à 8 euros. Et toujours le dimanche 12, il y aura Commune, Boy and the Echo Core. C'est au Craspec Music, c'est à 20h30 et c'est à 5 euros. Voilà, donc on va se quitter avec cette émission donc un peu particulière avec les gens du Grand Zéro. Merci beaucoup à vous d'être venus nous expliquer un peu ce que c'était le Grand Zéro.
Merci à toi.
Si vous avez besoin d'aide, besoin de relais médias pour la poursuite de votre recherche d'un nouveau logement, etc., n'hésitez pas. Vous serez les bienvenus sur l'antenne de Radio Canu.
Merci mille fois.
Et donc, juste pour faire la transition avec la prochaine émission, on va donc s'écouter un morceau de peut-être vous le présenter.
Konono Number One, du coup.
Konono Number One, c'est juste pour c'est quelle piste?
La piste 4.
D'accord, ok.
Notre camarade.
Et donc, ouais, Konono, juste peut-être dire le nom du morceau. Après, t'as présenté déjà un peu tout à l'heure.
Je l'ai pas noté, donc désolé. Ouais. C'est le premier morceau de l'album Congotronics de 2004.
Voilà. Et ça, donc, c'est en mars, hein, c'est ça?
C'est le 17 mars.
17 mars.
Ah bon, voilà.
Allez, on s'écoute ça pour faire la transition. Restez sur Radio Canu, l'émission ping-pong juste après, émission électro-hip-hop. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une programmation, on va retrouver une programmation plus centrée sur la musique. D'ici là, vous pouvez retrouver l'émission d'aujourd'hui ainsi que les précédentes sur le blog de l'émission seul-avec-vous.blogspot.com et puis ainsi que sur les blogs de Radio Canu. Voilà, allez, on se dit à la semaine prochaine, on s'écoute Konono, et à bientôt, salut.
Merci Pascal.